On sait que le gouvernement russe a envoyé des troupes sur le territoire ukrainien. Ça a même été reconnu par le ministère de l'Intérieur ukrainien. Et donc là, les gens veulent que le gouvernement actuel s'en aille et veulent la démission de Yanukovych, mais ils n'ont pas les moyens de prendre de force les bâtiments administratifs. Les deux points qui sont, disons, encore très favorables à Yanukovych, c'est Sébastopol en Crimée. Et puis la ville de Kharkov, il y a un maire qui s'appelle Kernes, hein, qui lui est très proche de Poutine et du président Yanukovych.
Là, on est dans une situation qui se rapproche de la guerre civile. Là, pour vous, l'État a perdu le contrôle sur une partie du pays.
Ah, clairement, oui, l'État a perdu contrôle sur une partie du pays. Et puis même tout à l'heure, il y a eu une déclaration du ministre de l'Intérieur qui a dit qu'il n'arrivait pas à contrôler les fameuses troupes Berkouta. Les troupes Berkouta, c'est les forces spéciales du ministère de l'Intérieur. Dans les Berkouta, on suppose, alors c'est pas confirmé, mais on suppose qu'il y a des forces qui viennent de Russie et qui n'obéissent pas aux ordres du commandement. Donc je dirais que oui, ça devient complètement incontrôlé.
Est-ce qu'il y a encore des instances qui sont capables de jouer un rôle de médiation ? On avait parlé beaucoup du rôle des églises. Est-ce qu'elles sont encore audibles ? Est-ce qu'elles peuvent encore physiquement s'interposer ? Ou est-ce que vraiment là c'est désespéré ?
C'est-à-dire que les églises, elles ont pris clairement position en faveur de la population. Parce que là, vraiment, il y a eu 25 morts. C'est la nuit la plus terrible dans l'histoire contemporaine de l'Ukraine. Et c'est la nuit la plus terrible dans l'histoire de la sortie du communisme. Donc le patriarche grec-catholique Shevchuk, Sviatoslav Shevchuk, il a clairement dit que la responsabilité du bain de sang reposait sur Yanukovych. Donc voilà, je ne crois pas que les églises soient là en mesure d'assurer une médiation. La seule médiation qui est possible et qui est demandée de la part des Ukrainiens, c'est une médiation internationale.
Justement, est-ce que les remontrances de Merkel, de Hollande, de Catherine Ashton, est-ce qu'elles sont entendues en Ukraine ou est-ce qu'elles paraissent totalement désuètes par rapport à la situation ?
Elles sont dérisoires. Elles auraient dû avoir lieu il y a 3 mois. Là, aujourd'hui, c'est pas des déclarations qu'il faut, c'est des mesures interdisant les visas, interdisant les comptes en banque, envoyant des hôpitaux, des aides médicales, des médecins sur place. Là, pour l'instant, les Ukrainiens sont complètement démoralisés parce qu'ils entendent des bonnes paroles de la part des Européens. Mais là, ils ont besoin d'action. Ils ont besoin que concrètement, on puisse annoncer symboliquement que le gouvernement ukrainien n'est pas reconnu. On ne lui donne pas la circulation, la liberté de circuler en Europe. On bloque les comptes et on demande des comptes d'enfants, parce que la plupart des enfants des membres du gouvernement font leurs études en Autriche, en Suisse, en Angleterre, etc. Donc là, il faut faire pression sur le gouvernement de cette façon. Il n'y a que comme ça que on arrivera à freiner l'action, en tout cas, du gouvernement ukrainien.
Est-ce que dans l'opposition ukrainienne, on a des personnes prêtes à incarner vraiment une réelle alternative ? On a l'impression qu'aucune grande figure ne se dégage. Là, contrairement à 2004.
Mais je crois pas, moi. Je crois pas. Je crois que là, il faut pas être victime de ce que disent certains Ukrainiens qui sont soit fatalistes, soit au contraire se retirent du jeu. Il y a un personnel politique qui est, je crois, d'une grande valeur. Quelqu'un comme Arseniy Yatsenyuk, ou quelqu'un comme Vitali Klitschko, ou quelqu'un comme Oleg Tiagnibok, c'est des gens qui ont fait des études supérieures, qui ont une expérience européenne, qui parlent plusieurs langues, et qui sont tout à fait pacifiques. Depuis 3 mois qu'ils sont dans la résistance, ils n'ont pas appelé une seule fois à des mesures de violence. C'est des gens tout à fait remarquables. Et je trouvais très bien lundi que Angela Merkel rencontre Klitschko et Yatsenyuk, parce que c'est vraiment des gens qui proposent une issue, une voie parlementaire qu'ils avaient proposée hier et qui a été refusée par le président du Parlement, M. Rybak. Et cette voie, elle consiste à revenir à la Constitution de 2004. Donc c'est une voie parlementaire pacifique qui remet le jeu dans les mains du Parlement. Il y a une majorité qui est prête à se mettre en place autour de Yatsenyuk pour gouverner et sortir de l'impasse, qui n'est pas simplement une impasse politique, mais une impasse économique, puisque la grivna est en train d'être dévaluée. Et donc là, il y a une crise économique très grave en perspective.
Pour vous, il n'y a pas d'autre issue possible que le départ de Yanukovych? Il n'y a plus aucune possibilité de transiger avec ce personnage?
Ah ben, Yanukovych, oui, il a perdu toute sa légitimité, c'est certain. La seule légitimité qu'il a gardée, c'est du côté du Kremlin, du côté du président Poutine. Donc c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui de faire pression sur le Kremlin. C'est le vrai acteur du jeu, c'est le sait, c'est Vladimir Poutine. Donc il faut absolument expliquer à Vladimir Poutine que cette situation ne va pas le grandir. Les Ukrainiens sont extrêmement déterminés, extrêmement motivés. Il fait une erreur d'analyse s'il pense que les Ukrainiens vont baisser la tête comme les Biélorusses ou comme les Russes à faire une pression militaire de ce type. Les Ukrainiens considèrent que des bornes ont été franchies et donc ils vont résister jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Enfin, on a bien vu, il y a eu plus de 20 morts du côté des opposants. Donc voilà, là il faut absolument expliquer à M. Poutine que s'il veut rester dans l'histoire, c'est en éteignant au plus vite ce feu et en acceptant que l'Ukraine ne va jamais faire partie de l'Union Eurasiatique.